Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Crazy, I just don't give a fuck.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale polar et thriller. Nous parlerons de trois poliziesco édités par Éléphant de Film, à savoir La police à les mains liées, car oui, c'est bien connu, de Luciano Ercoli, Magnum 44 spécial de Stelvio Massi et Les Féroces de Romolo Guerrieri. On restera avec nos amis italiens via les Giallo qu'il l'a vu mourir d'Aldo Lado, qui est sorti chez nos amis de Frénésie avec un petit coup de main de The Ecstasy of Film. On parlera également de Murder Rock de Lucio Fulci, paru chez Artus Film. On voyagera outre-Atlantique avec Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke, ça c'est sorti chez BQHL, et Chili 1976 de Manuela Martelli, ça s'est sorti chez Blackout. Et puis nous reviendrons dans notre bel hexagone pour un autre film sorti chez Blackout, Les Algues Vertes de Pierre Jolivet et deux pépites restaurées de Claude Chabrol, disponibles chez Carlotta Film, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin. Miam, miam, miam. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Christophe Cosins, Laurent Derinck, Benjamin Fay, Stéphane Lacombe, Thierry Lopez, Victor Lopez et François Villa pour leur aide sur cette émission. Je pense n'avoir oublié personne. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Ils sont présents dans ce studio, car lorsqu'on les appelle pour parler polar et thriller, ils sont toujours au garde à vous. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
Officer Thomas Roland, répondez présent, hein, dit le loup-garou Picard, il est là également dans ce studio. Et chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme, bonjour Damien et bonjour à toutes.
On va aller direction outre-Atlantique pour ce début d'émission avec Les Seigneurs de Harlem, réalisé par le mec qui fait une des bastons les plus homériques de l'histoire des films avec Schwarzy hein, dans Commando, hein. Bill Duke, ouais, parce que Bill Duke a aussi été acteur, un sacré acteur d'ailleurs avec une vraie présence, et Les Seigneurs de Harlem de 1997 avec Laurence Fishburne, Tim Ross, la belle Vanessa Williams, Andy Garcia, enfin excusez-moi du peu, la musique d'Elmer Bernstein, enfin là, tout tout est réuni pour faire un film assez impressionnant et qui raconte, eh bien, on est dans le New York des années 30, Bumpy Johnson règne avec honneur, force et dignité sur l'industrie du racket à Harlem. Mais, eh bien, le terrible Dutch Schultz menace son pouvoir par une série d'attaques violentes. Bumpy comprend vite que la seule manière de gagner est de jouer le jeu de la violence. Ouais, ça va chier, quoi. Voilà. Et Bumpy bien décidé à pas se laisser emmerder, quoi. C'est pas parce que on est noir qu'on va se laisser embêter. Alors, Damien, qu'as-tu pensé de ce film, qui est un film quand même assez particulier? À l'époque, Bill Duke venait de faire Sister Act 2, on peut dire que là, c'est quand même quelque chose de très différent, et qui est surtout un biopic vraiment de gangster noir mythique, alors qu'on a toujours vu, en fait, dans l'histoire du cinéma, des biopics de mafieux italiens, voilà. Mais on a rarement vu un biopic de personnages tels que celui incarné à l'écran par Laurence Fishburne.
Ce que j'en pense, c'est que c'est un film très intéressant qui sort justement à une période très intéressante. Alors, on a un gangster noir. La dernière fois que j'ai vu un gangster noir des années 30, parce que le contexte et l'époque sont très importants, c'était dans la saison 4 de Fargo, où Chris Rock jouait justement le chef d'un gang noir à New York. Et ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'il sort en 97, donc on est un peu à la fin de la période où on a eu tous les hood movies, c'est-à-dire tous les films qui se passent dans les quartiers où justement il y a tout ce problème au niveau des quartiers. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Bill Duke, qui est acteur, a joué dans Menace to Society, qui est un des hood movies les plus connus. Alors on se retrouve avec cet élément qui est ultra intéressant, qui est que Bumpy travaillait pour le personnage de Stéphanie Sinclair, qui est un peu la marraine, pour dire l'équivalent du parrain, qui gère en fait le quartier d'Harlem, qui a son économie qui est bien rodée. Au milieu de tout ça, on va avoir Dulles Schultz qui va débarquer, essayer de prendre une part du gâteau et qui va commencer donc une guerre avec ces personnes. Au final, l'affrontement, c'est Laurence Fishburne versus Tim Roth. C'est très sympa. Donc, on a au tout début du film, on a plusieurs éléments de western avec la sortie de prison, le corbillard avec le croque-mort qui revient à plusieurs reprises, un peu comme un présage. Attention, Bumpy, tu risques de mal finir. C'est un film que je trouve intéressant, mais qui pour moi a beaucoup de défauts, malheureusement, en son sein. Alors, l'histoire est très cool, j'ai beaucoup aimé suivre sa vie, mais je trouve qu'il a beaucoup trop d'aspects qui font comédie, ou plutôt il a pas mal de plans qui sont assez naïfs, et je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois qu'il veut revenir à des scènes beaucoup plus sérieuses, je trouve que l'enjeu est indirectement un peu mis de côté. J'arrive pas en fait à voir la tension, enfin je vois la tension parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entourent les deux personnages principaux qui commencent à disparaître l'un après l'autre, mais je trouve que du coup indirectement l'histoire manque un peu de sérieux. Et par contre, l'autre point qui est intéressant, c'est que l'histoire nous propose un peu une idée de rise and fall, donc quelqu'un qui va gagner en puissance, qui va gagner en argent et qui est censé chuter à la fin. Mais là, il s'y prend totalement différemment. Il intègre un autre élément qui est extrêmement cool parmi tous ceux que j'ai ajoutés. C'est en fait, il parle un peu de la fraternité entre une communauté qui s'effrite au fur et à mesure. Parce que Laurence Fishburne, Bumpy est censé représenter la communauté noire et Schultz doit représenter un peu tout ce qui va être la mafia en face. Et parmi ces hommes de main, il a des personnes noires qui travaillent avec lui, il récupère de l'argent de personnes noires. Et tu as tout un sous-dialogue de finalement, dans les années 30, tu as déjà une fragilisation au niveau de la fraternité au cœur d'une communauté. Alors c'est un film qui met beaucoup d'opposition parce que c'est un film de gangster, donc c'est des affrontements de clans, mais il arrive à apporter une touche de fraîcheur assez unique malgré le fait que je trouve encore une fois qu'il manque un peu de sérieux dans ces scènes tendues.
Nous rappelons que Les Seigneurs de Harlem de Bill Duke, c'est un film disponible chez BQHL. Vous écoutez Culture Prohibée. Je vais rester outre-Atlantique pour aller au Chili hein, pour un film qui s'appelle Chili 1976, qui est sorti chez Blackout, qui est un film réalisé par Manuela Martelli, également scénarisé par Manuela Martelli, avec Aline Kuppenheim. Aline Kuppenheim, excellente dans le rôle principal du film. Alors, comme son titre l'indique, ça se passe en 1976 au Chili. Hein. Donc on est 3 ans après le coup d'État d'Augusto Pinochet, et une femme de la bourgeoisie qui s'appelle Carmen, donc qui est jouée par Aline Kuppenheim, part superviser la rénovation de sa maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d'hiver. Et puis, comme tous les membres de la bourgeoisie qui s'accommodent fort bien de la dictature, elle est très copine, évidemment, avec le prêtre du coin. Sauf que ce prêtre du coin, il va lui demander, en fait, de s'occuper, de soigner un jeune homme qu'il héberge en secret. Et il se trouve, en fait, que ça va être pour elle une déflagration, puisque ce jeune homme, évidemment, c'est un opposant politique. Et évidemment, sa vie est en jeu. Et ça va complètement modifier, en fait, son rapport à son quotidien, à son mari, à ses proches, à son environnement. Parce qu'au début du film, on la voit qui s'intéresse à des choses, en fin de compte, assez frivoles, c'est normal, elle est là pour refaire son intérieur, donc elle se prend la tête sur des couleurs de papier peint, tout ça, enfin bon, bref. Tandis qu'hors champ, on entend qu'il se passe dehors quelque chose d'horrible. Un événement vraiment terrible. Voilà. Et, donc dès le début, on voit tout de suite la mécanique de mise en scène choisie par Manuela Martelli, qui est que il y a la vie et puis il y a le mal. Le mal est là, le mal est présent, il est diffus, il est là, et on ne le voit pas. On l'entend, mais on ne le voit pas. Donc dès le début, on sait qu'elle va jouer du hors-champ, en fait, pour caractériser la présence du mal au Chili, à cette époque. Évidemment, on peut supposer que ce qui se passe, c'est la Dina hein, qui est au travail hein, et qui s'en prend à des opposants. Parce que la Dina, c'est la police politique que va mettre en place Pinochet à partir de 1974 et qui va s'occuper de réprimer, en fait, tous les opposants politiques à Pinochet, réprimés de manière terrible. Ainsi, cette maison là qui est au bord de mer, c'est un endroit merveilleux en fait où ils habitent d'ailleurs. Hein. À un moment, il y a une scène assez hallucinante, c'est-à-dire que on fait un peu comme si de rien n'était, et la mer va charrier un cadavre d'une opposante, puisqu'on sait que la Dina jetait les cadavres dans l'océan en fait en espérant qu'ils partent au loin. Et là, le cadavre va revenir. C'est un océan, d'ailleurs. C'est pas la mer, c'est l'océan. Et le cadavre revient. Et c'est une scène assez troublante parce que évidemment, encore une fois, on est dans le non-dit, dans le hors-champ. Et ce cadavre qui est retrouvé, c'est presque normal, en vérité. Et moi, je trouve que le film, en fait, il a une super idée, le film, c'est de prendre cette femme de 50 ans, de la bourgeoisie, et de nous donner le point de vue de la bourgeoisie sur la dictature. Parce qu'à chaque fois, dans tous les films, il y a plein de grands films hein, sur comment dire, ce qui s'est passé au Chili. Il y a un travail incroyable qui a été fait par tout un tas de cinéastes sur le Chili. On pense à Guzman, même Gavras, tout ça. Enfin, ouais, il y a plein de films extraordinaires sur le Chili. Mais on n'est jamais du côté de la bourgeoisie. Et là, on voit la bourgeoisie, comment elle vit, comment ça se passe pour les bourgeois au moment de la dictature chilienne. Et le final... on voit, hein, dans ce film, il ne faut surtout pas poser de questions. C'est un film où on ne pose jamais de questions. Enfin, c'est vraiment un film assez fascinant pour ça. Et le final, pour moi, est vraiment glaçant. Et il fait la preuve que dans une dictature, bah, c'est un peu comme chez Ridley Scott, hein, c'est un peu comme dans l'espace. Personne ne vous entend crier, en fait. Voilà, et le film s'appelle donc Chili 1976. C'est un film de Manuela Martelli. C'est disponible chez Blackout. Et moi, je pense que c'est un film qu'il faut voir absolument. Alors, en plus, dans les bonus, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un débat avec la réalisatrice qui a été enregistré dans un cinéma. Qui est vraiment intéressant, elle est très pertinente, elle a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc c'est un film que je vous conseille vivement, moi, Chili 1976, donc qui est disponible chez Blackout. On va revenir en France, Damien, avec un film qui est également disponible chez Blackout, qui est réalisé par Pierre Jolivet et qui s'appelle Les Algues Vertes.
Les Algues Vertes, c'est avant tout l'adaptation d'une BD, Algues Vertes, histoire interdite de Inès Leroux et de Pierre Van Hove. Et en fait, c'est une enquête sur des algues vertes qui se sont échouées en Bretagne, si je ne me trompe pas, et qui en fait sont des algues extrêmement toxiques pour lesquelles on en parle très peu, mais qui continuent d'être présentes. Et le film met en avant en fait cette enquête. Alors, pour résumer plus précisément, à la suite de morts suspectes, Inès Leroux, jeune journaliste, décide de s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à triompher de la vérité ? Pour le savoir, il faut regarder le film. Alors, le film se concentre énormément sur les hommes et les familles qui sont touchés par finalement ce mal, par ces algues qui se retrouvent partout, y compris sur les plages. Même les morts sont intéressantes parce que parmi les morts, on a des animaux de compagnie comme des chevaux qui finissent par mourir alors qu'ils étaient partis en balade avec leurs cavaliers. On a un jogger en fait qui juste courait sur la plage et qui va mourir à cause de la toxicité. Ça qui va lancer le début de l'enquête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se concentre finalement sur un microcosme des familles, la journaliste, certaines personnes qui vivent dans le local et qui doivent s'occuper de nettoyer ces algues et qui se retrouvent à faire face aux industriels et aux politiques, et avec cette journaliste qui va passer son temps à essayer de les contacter pour savoir ce qui se passe, s'ils sont capables de changer les choses. Au final, c'est un film qui raconte l'histoire d'un combat qui a pris énormément de temps et qui est même encore un peu en cours. Parce que oui, vu que c'est une enquête journalistique, ça repose sur une histoire vraie et une histoire française. On ne peut pas faire plus français que ça, directement. Et ce qui est intéressant et qui est plus ou moins d'actualité, c'est que ça touche aussi au monde paysan, à la nature, au choix que fait notre société, de la façon dont elle se développe, les produits qu'elle va utiliser ou non. Ça parle aussi de la gestion des élus, du problème écologique aussi, du problème écologique avec les entreprises qui interviennent dedans. C'est un film qui touche à beaucoup d'aspects au final de la société française, et dans son aspect filmique, il fait un truc qui est... Alors, je sais pas s'il le fait précisément volontairement ou pas, mais je trouve que c'est un film qui se retrouve avec des couleurs qui sont extrêmement belles et qui arrive à finalement... intégrer les différentes personnes qui se baladent dans la nature comme si elles ne faisaient qu'un avec elles. Alors c'est un film qui est extrêmement sage, c'est-à-dire qu'on a une certaine tension qui est présente, notamment au moment où la journaliste vient, commence à s'installer et commence à parler du problème des algues vertes. Il y a certains groupes qu'on suppose des paysans qui se réunissent et qui essayent de lui mettre un coup de pression pour qu'elle parte et qu'elle n'enquêtent pas sur ça au final, parce que eux, ils ont besoin des produits pour produire leurs plantes, et indirectement derrière elle intervient parce que les plantes qu'elle produit mènent à une pollution qui tue ces mêmes personnes. Mais c'est une tension qui est pas écrasante, elle est présente parce qu'on sent qu'il y a plusieurs moments où on vient lui foutre un coup de pression. Il y a un moment où un membre du syndicat des paysans va jusqu'à la voir pour lui dire que peut-être que son enquête apprend pas la bonne direction et qu'il faudrait s'intéresser à autre chose. Donc c'est un film qui montre aussi la difficulté d'une enquête, à quel point c'est compliqué quand on est en indé pour trouver des éléments afin de produire au final un article journalistique. Et il montre aussi les différents rouages qu'on a au cœur d'une enquête, les différentes personnes qu'on va interviewer, comment on va les rencontrer. Et vu que c'est une journaliste dont c'est pas le principal source de rémunération de faire cette enquête, on a aussi sa vie en parallèle, le fait qu'elle est obligée de trouver un autre job afin de pouvoir continuer son enquête. C'est un film extrêmement intéressant en fait, qui parle de journalisme et de société française.
Et dans le rôle de la journaliste, c'est Céline Sallette, c'est la très très... La très magnétique Céline Sallette. On a un peu l'impression que c'est la suite de Rouge de Farid Bentoumi. En Rouge, c'est... moi je trouve que d'un point de vue cinématographique, Rouge c'est mieux, hein, parce que le film de Jolivet, la problématique du film de Jolivet, pour moi, c'est la mise en scène, elle est quand même assez plate. C'est le film dossier de l'écran avec une mise en scène où il fait pas preuve de beaucoup dans Jolivet. Quand même, au début de carrière, il y avait une ambition quoi dans ses premiers films, Simple Mortel, tout ça. Enfin, il y a des ambitions quoi dans ses films, qu'il a un peu perdu. Au profit d'un scénario, un super scénario, hein, ça je suis d'accord. Le scénario est vraiment intéressant. Alors, le coup des chevaux, le coup du jogger, tout ça c'est vrai, hein, c'est réellement arrivé. Le casting est super. Il y a aussi Jonathan Lambert qui fait un homme politique qui est parfait parce que c'est un homme politique qui voudrait bien lutter contre les algues vertes, mais qui ne peut pas aller au bout de ce qu'il veut faire, parce que sinon il ne sera pas réélu, parce que sinon il ne sera pas populaire. Et il est très intéressant. Et le couple formé par Céline Sallette et Nina Meurice aussi est très intéressant. Je trouve très bien décrit dans son quotidien. Je suis d'accord avec toi, la photo d'Olivier Bunjing, elle est très belle, mais c'est un directeur de la photo que tout le monde s'arrache. Hein. C'est un directeur de la photo de grand talent. Après, il faut savoir, alors parce que je dis la mise en scène, elle est peut-être moins au point, mais il faut savoir que ce que vit la journaliste dans le film, c'est quand même des gens qui ont été menacés de mort. Enfin, les agriculteurs ne voulaient pas parler. Enfin, aujourd'hui, il faut savoir que le film a été interdit de diffusion. Le président du Conseil régional de Bretagne ne voulait pas voir le film. Du coup, là où le film a le plus marché, c'est en Bretagne. Et le film fait 400 000 entrées, dont deux tiers en Bretagne. 400 000 entrées, c'est énorme pour un tout petit film indépendant. Hein. Au moment où la FNSEA, quand on enregistre cette émission, vient encore de gagner, de faire reculer sur l'écologie un gouvernement français qui n'hésite jamais à reculer d'ailleurs sur l'écologie, hein, et continuer à mettre en avant un mode de production hyper industrialisé au détriment de la santé des agriculteurs. Ce qu'on voit dans le film, hein, les agriculteurs savent très bien qu'ils en crèvent, mais ils en vivent aussi. C'est tout le paradoxe du truc qui est très bien démontré dans le film. Alors c'est vrai que moi je trouve le scénar est vraiment chouette. Et j'ai découvert, parce que je disais la mise en scène n'est pas extraordinaire, mais j'ai découvert que par contre il a dû énormément tourner à l'épaule parce qu'ils étaient menacés pendant qu'ils tournaient. Ils étaient obligés de tourner sans autorisation. On ne voulait pas qu'il filme. Quand on a su qu'il faisait un film sur les algues vertes, il n'était plus du tout le bienvenu en Bretagne, bien que la région ait financé le film. Et donc, après, le Conseil régional a refusé qu'il y ait une projection au Conseil régional. C'est le président du Conseil régional. Donc, c'est dire un peu que comment ça n'a pas été simple pour Jolivet. Je suis d'accord avec toi, c'est un film à voir parce que le sujet est important. Après, je trouve que dans les films politiques de ce type, Rouge de Farid Bentoumi, on n'en a pas assez parlé. Je trouve que c'est un très bon film. En plus, porté par Zita Enro, évidemment, toujours exceptionnel, mais aussi toujours exceptionnel, Samy Bouajila, qui fait un syndicaliste plus vrai que nature, parce qu'effectivement, tiraillé entre le fait de sauver les emplois et puis de... C'est un poids considérable sur les épaules d'un homme. Ça, c'est très bien montré dans le film. Il n'est pas caricatural, ce personnage. C'est hyper intéressant. Donc, on avait Rouge et on a aussi Goliath de Frédéric Tellier, qui, je trouve, est plutôt bien troussé. Tellier, bon metteur en scène aussi, hein, qui avait fait l'affaire Esquin. Donc, Les Algues Vertes, c'est disponible chez Blackout. Un vrai film politique, en tout cas, qu'on et engagé qu'on vous conseille vivement.
Si je suis intuitif, vous devez être l'inspecteur chargé de l'enquête à propos de Gérard Filliol.
C'est tout à fait exact.
De quoi souffrez-vous?
Oh, mon pauvre ami. De tout. Les dents, la gorge, les pieds, l'estomac. Un vrai massacre. Je ne dors plus. Ou bien quelques heures. Les yeux ouverts.
C'est tout?
Mais malheureusement, non. Je souffre aussi de... Comment vous appelez ça? De paranoïa aiguë. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que tout le monde me raconte des histoires.
Après les algues vertes, donc, moi je vais rester également en France, dans notre bel hexagone, pour parler de, très rapidement, revenir très rapidement sur Carlotta qui sort un coffret inspecteur Lavardin, donc avec Poulet au vinaigre de 84. Alors les deux inspecteurs Lavardin là sont restaurés en 4K, les deux films de Chabrol. Et donc il y a Poulet au vinaigre en 84 et Inspecteur Lavardin en 1986. Donc, je vais vous faire un coming out, les gars. J'ai toujours préféré Poiret à Serreau. C'est comme ça. Je trouve, et en plus que Poiret n'a jamais été aussi bon qu'en Inspecteur Lavardin, dans ces deux films de Claude Chabrol, peut-être pas les meilleurs de leur metteur en scène, mais en tout cas parmi les plus jouissifs. Alors, il y a tout d'abord Poulet au vinaigre qui se passe dans une petite ville de province où il ne se passe pas grand-chose, enfin, d'habitude. Il y a une tyrannique vieille dame impotente jouée par Stéphane Audran, qui est fantastique, qui refuse de vendre sa maison à trois notables et qui bloque ainsi un projet immobilier. Le fils de cette dame, Stéphane Audran, joué par un tout jeune Lucas Bellevaux, qu'on adore, est un facteur et il est, lui, bien au courant de beaucoup de secrets puisqu'il a pris l'habitude de décacheter les courriers à l'aide de la vapeur, évidemment, hein, pour ouvrir les enveloppes et ensuite les refermer. Et puis il est aidé aussi par sa maîtresse, hein, la sub Guichetière, incarnée par Pauline Lafont. Aussi décide-t-il de répondre aux pressions incessantes des promoteurs en exploitant les travers des uns et des autres. Et une nuit, il verse du sucre dans le réservoir de la voiture de l'un d'eux. Mais le lendemain, celui-ci meurt dans un accident de la circulation et l'inspecteur Lavardin débarque. Bah évidemment, on est chez Chabrol, donc... La bourgeoisie va en prendre plein la gueule. Hein, on s'en prend, comment dire, aux mœurs des bourgeois. On ne les épargne pas. Mais évidemment, c'est aussi du Chabrol. C'est aussi de la très grande. C'est parce que c'est très glauque en fait ce que ça raconte. Hein, mais c'est de la très grande direction d'acteur. Et moi, je vous conseille de voir la prestation de Michel Bouquet parce que Michel Bouquet c'est un grand acteur, mais au cinéma, en fin de compte, il a pas eu tant de grands rôles que ça. C'est peut-être là sa meilleure prestation avec un Condé de Boissé. Donc il y a la suite aussi qui est dans ce coffret Carlotta. La suite c'est quoi? C'est comment on apprend à faire des œufs sur le plat avec du paprika. Avec l'inspecteur Lavardin, puisqu'il explique la recette dans le film. Voilà, donc il s'appelle l'inspecteur Lavardin, dans lequel Raoul Mons, qui est interprété par Jacques Dacmin, un célèbre écrivain catholique, est attablé en compagnie de son épouse Hélène, Bernadette Lafont, de sa belle-fille Véronique, Hermine Claire, qui est une jolie adolescente, et de son beau-frère Claude, interprété par Jean-Claude Brialy, qu'on a trop peu vu au cinéma. À chaque fois qu'on le voit dans un film, on se dit « qu'est-ce qu'il est bon, Jean-Claude Brialy ?» Ben là, il est très bon, comme d'habitude. Et puis, le repas est interrompu par l'intrusion de manifestants en colère qui lui reprochent une pièce blasphématoire. Et puis, peu de temps après, l'écrivain est retrouvé mort sur la plage et les fesses barrées d'une inscription en lettres rouges « Porc ». P-O-R-C. Évidemment, l'inspecteur Lavardin va mener l'enquête et il retrouve Hélène, Bernadette Lafont, qui en fait est une de ses ex, ce qui va un peu pimenter cette affaire et on va comment dire, donc découvrir le quotidien de cette honorable famille. Amen. Donc si Chabrol avait été flic, il aurait certainement été Lavardin. Hein, voilà, je pense que ce personnage, en fait, c'est vraiment son alter ego. Alors bien sûr, ça désingue chez les Bourges et les Cato, c'est très jouissif. Alors, bien sûr, ça baise, hein, bien sûr, mais un peu façon yacht poil quand même chez les faux culs. Hein. Donc, la bonne femme Bernadette Lafont, le beau Serge Jean-Claude sont de la partie dans ce savoureux jeu de massacre orchestré entre deux verres de pinard millésimé par le classieux Jean Poiret. Donc, c'est tellement bien qu'une mini-série en 4 épisodes sortira. Mais bon, ceci est une autre histoire. On espère qu'elle va aussi sortir en Blu-ray. Donc, c'est le coffret Inspecteur Lavardin. C'est disponible chez Carlotta Film. Écoutez Culture Prohibée, spécial film policier et thriller. Je vais aller en Italie. Je vais prendre direction l'Italie, faire un petit bond en arrière. Bon, vous connaissez mon amour pour l'Italie, son patrimoine, sa beauté, ses vieilles pierres, sa cuisine et son cinéma, et surtout son cinéma bis. Alors, quel bonheur à l'annonce de la sortie de ces 3 nouveaux polars all'italiana chez par nos amis d'Elephant Film. Alors, je vais commencer par La police à les mains liées, un film de 1975. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est simple. On est dans un hôtel milanais, il y a une conférence internationale, il y a une bombe qui explose, il y a plusieurs blessés. Il y a un commissaire qui s'appelle le commissaire Balsamo qui parvient à retrouver la trace d'un des terroristes, mais qui loupe l'interpellation. Et il est assassiné, et du coup, c'est Matteo Roland qui était présent le jour de l'attentat et qui reprend l'enquête de son collègue. Alors, le film qui se passe à Milan, hein, et clairement, très clairement inspiré du massacre de la Piazza Fontana, massacre réel, qui est le massacre, pour beaucoup d'historiens, qui est à l'origine des années de plomb, hein, de ce qu'on va appeler les années de plomb, qui a été perpétré en décembre 69, qui a fait 17 morts au centre de Milan. Et d'ailleurs, dans le film, pour bien marquer la filiation avec cet attentat de la Piazza Fontana, on voit des images de funérailles qui sont les réelles images d'archives des funérailles liées à la Piazza Fontana. Là, ça se passe dans une conférence autour de l'art, mais enfin, c'est la même chose. Et évidemment, quand Franco Fabrizi est tué, c'est Claudio Castagnelli, qui interprète souvent les flics incorruptibles, qui va se retrouver à mener l'enquête. Et si le film dit que la police a les mains liées, pourquoi non ? C'est pas parce que c'est un pamphlet d'extrême droite, ce film, bien au contraire. Ça montre que la corruption règne en maître dans la société italienne et que Claudio Castagnelli, il va devoir lutter aussi contre tout un système. Et donc, on va avoir du coup un poliziesco typique hein, de son époque, avec un tournage en décor réel. Parfois, on imagine bien que c'est tourné sans autorisation, tout du moins sans prévenir le public, que, comment dire, loin de la facilité de beaucoup de polars, là, je trouve que il y a une vraie description de l'époque qui est très juste, avec des personnages très justes. On ressent bien l'ambiance paranoïaque de l'époque des Brigades Rouges. Et puis surtout, le film a un côté très... très sinistre, quoi, très nihiliste, quoi. Vraiment, c'est un monde sans espoir, quoi. Voilà, c'est assez impressionnant et c'est vraiment, pour moi, un très bon poliziesco que la police a les mains liées de Luciano Ercoli. Luciano Ercoli, qu'on connaît plus pour ses giallo, qu'un producteur qui est venu sur le tard, hein, à la réalisation. Il a fait, par exemple, La mort caresse à minuit, hein, qui est sorti chez nos amis d'Artus Film. Et donc, on vous conseille vivement La police a les mains liées de 75, qui est donc paru chez Elephant Film. Toujours chez Elephant Film, Magnum 44 spécial. Bon, tout est dans le titre, hein. Magnum 44 spécial. Voilà. Alors, c'est un film de Stelvio Massi, cinéaste inégal, hein. Moi, un peu surestimé, je trouve, parfois par les amateurs de bis. Mais là, il est vraiment au meilleur de sa forme, hein, pour ce film ultra violent, en version intégrale, restaurée. Voilà. Alors, Stelvio Massi va réaliser un paquet de polars, hein, dont la fameuse trilogie de Marc, hein, le fameux Marc, le policier Marc la gâchette, interprété par Franco Gaspari. Il y en a un qui est sorti d'ailleurs en DVD, je crois, Blu-ray dans la collection Make My Day, l'un des Franco Gaspari, où on voit d'ailleurs une petite vasectomie pratiquée en prison par des co-détenus dans une image assez peu ragoûtante. Voilà. Et en fait, si ces films, cette trilogie-là a marqué pas mal les amateurs de polar italien, c'est surtout parce qu'au scénario, il y avait Dardano Sacchetti, qui est un très très bon scénariste. Et là, Magnum 44... spécial, n'est pas le sommet de la carrière de Massi. Ce qui est intéressant dans le film de Massi, par contre, c'est l'endroit où le film se déroule. Ça se déroule sur le port de Bari. Donc, on est dans un endroit qu'on voit assez peu au cinéma italien. Puis on voit tout, hein, des petites ruelles, presque des paysages, par moments des trucs très gothiques presque, des ruelles très préservées, tout ça. Très ancienne, mais on va aussi avoir les autoroutes, on va aussi avoir les immeubles de bureaux, et puis les séquences nocturnes sont quand même très très réussies. D'ailleurs, pour en savoir plus, nos amis Gérald Duchossoir et Romain Van Destichel, qui sont souvent venus nous parler des polars italiens dans l'émission, là, livrent un travail assez... assez impressionnant encore pour analyser ce film. Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est que bon, on est chez Stelvio Massi, donc c'est un film donc très très violent, hein, comme d'habitude, mais c'est surtout de voir que c'est un film où on a donc un affrontement police-gangster, hein, il n'y a rien de très très original là-dessus, avec John Saxon, hein, qui est un policier dur à cuire, hein, donc et tout le monde est renvoyé dos à dos dans ce film. C'est-à-dire que la police torture, les voyous torturent, tout le monde est méchant, voilà. C'est un monde de salauds. Et, comment dire... Du coup, encore une fois, ça donne une vision d'Italie de l'époque assez nihiliste. Et cette squadra anticriminée, hein, cette équipe-là menée par... notre ami John Saxon, qui décidément aura tout fait, hein, dans sa vie d'acteur, affronte ici Lee Jacob, très habitué aussi au rôle de pourri dans le cinéma italien quand il avait besoin de payer ses impôts américains. Alors, dernier film de cette salve édité par Elephant Film, c'est Les Féroces de Romolo Guerrieri, un film de 76. Romolo Guerrieri qui est, travaille sur un scénario de Fernando Di Leo, notre copain Fernando Di Leo, notre copain communiste. Eh bien, on va retrouver toutes les obsessions de Fernando Di Leo dans ce film, bien évidemment. Alors, trois fils de bonne famille tombent dans la délinquance et puis ils mettent la ville de Milan à feu et à sang. Tout le monde en veut à Milan, hein, deux films sur trois quand même dans cette salve. Et braquage, bain de sang, agression. Et sur leur route se dresse un commissaire incarné par le summum des interprètes cubains, j'ai bien sûr nommé Tomás Milian, évidemment mon idole. Et c'est lui qui a comme délicate mission d'arrêter la cavale meurtrière de ces trois excités. Alors, en plus, Tomás Milian, pour une fois, alors, il est absolument pas du tout cabotin, quoi, hein, cet acteur génial. Là, l'acteur quand même qui a porté les moumoutes les plus improbables du cinéma italien, est ici un flic presque, presque minéral, enfin très. Et c'est pareil, qui est revenu de tout un peu. À un moment, il convoque les parents, il leur fait un petit discours moralisateur, ils disent qu'ils ont mal élevé leur môme, en gros, quoi, et que c'est de leur faute si c'est devenu des délinquants. C'est pas parce que c'est des bourges que... Hein, voilà. Alors évidemment, on reconnaît bien là la patte du coco d'Iléo, hein, qui se paye frontalement la bourgeoisie, hein, qu'il exècre, hein, évidemment. Et puis surtout, on va retrouver une des obsessions d'Iléo, c'est... parce qu'il y a... Parmi les personnages, il y a deux personnages dans le trio là, qui sont quelque part un peu des amants. D'ailleurs, il y a une des petites copines d'un des deux qui leur dit à un moment, de toute manière, tous les deux, quand vous vous regardez, on dirait deux amoureux. Moi, c'est clairement dit. Hein, voilà. Et comme d'habitude chez Diléo, il y a ces amitiés viriles qui sont en fait de l'homosexualité. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans son cinéma. On rappelle d'ailleurs que l'un des autres films sortis dans cette collection d'éléphants de films, film de Deodato, Deux flics à abattre, au départ, les deux flics étaient homosexuels. C'était un couple homosexuel, sauf que bon, bah, à l'époque, ils ont changé le script. Alors, c'est pour dire que Diléo, c'est quelque chose qu'il a toujours porté. Donc voilà, alors, très bon scénar. Guerrieri, c'est un artisan solide. Hein. Le film est vraiment un bon film, un bon polar, et avec même par moments des excès de violence assez impressionnants. Moi, il y a une rafale de mitrailleuse en pleine tronche qui est assez impressionnante. Et alors, c'est sorti chez Elephant Film, donc hein, Les Féroces de Romolo Guerrieri. Et on rappelle, parce qu'on va pas, on n'a pas le temps de tout rechroniquer, qu'on en avait déjà parlé au moment où ça devait sortir la première fois et la sortie a été décalée. Mais c'est là, en ce moment, que sort Eurocrime, donc le documentaire sur le Poliziesco de Mike Malloy chez The Ecstasy of Film, donc qui vient très bien compléter cette collection d'éléphants de film. Écoutez Culture Prune. On va rester en Italie maintenant, mon cher Thomas. Avec un film édité par Frenesi et coédité un peu avec The Ecstasy of Film, parce qu'il reprend les bonus de The Ecstasy of Film et on y ajoute un bonus d'Olivier Père, hein, qui revient longuement sur le film. Je veux bien sûr parler de Chi l'a vista morire, Chi l'a vu mourir, d'Aldo Lado.
Un giallo parmi les meilleurs, il faut le dire, un giallo qui se déroule à Venise, hein, qui est un décor très particulier et que le réalisateur utilise à bon escient dans ce giallo qui est quand même particulièrement cruel, hein, parce que l'histoire c'est un père incarné par Georges Lazenby qui va récupérer sa fille à l'école, une fille de 10 ans à peu près, quelque chose comme ça, hein, qui est rousse, c'est un détail qui a son importance. Et sa fille, elle va être assassinée. Voilà, on va la retrouver dans les canaux de Venise. Apparemment, elle aurait été violée et ensuite assassinée à coups de pierre sur le crâne. C'est très sympa, hein, comme film. Hein. Donc déjà, c'est un film de 72. Dans les années 70, on assassinait les gosses à l'école. Et donc, Georges Lazenby, le personnage incarné par Georges Lazenby, va enquêter pour savoir qui et pourquoi qui a tué sa fille et pourquoi. Alors là, on est dans une errance dans Venise, quelque chose qui est quand même parfois assez, parfois pas loin de l'onirisme. Hein. Je pense notamment à une scène qui se déroule dans le brouillard, qui est très très bien, avec un excellent suspense, c'est une très bonne gestion du son. On entend sans arrêt une corne de brume qui se répète inlassablement. Et on est presque dans le fantastique dans cette séquence-là. Et Aldo Lado, lui, n'a pas peur parce que... alors déjà, il joue beaucoup sur le suspense. Hein. On voit l'assassin s'approcher de la petite fille plusieurs fois. Elle se dit, bon, bah, ça y est, là, c'est terminé pour elle. Mais non, il recule sans arrêt à l'instant. On se dit, elle va y échapper. Mais non, finalement, elle n'y échappe pas au bout d'une demi-heure de film. Quick, la gamine. Et il va quand même jusqu'à filmer le visage de l'assassin dans des plans très, très courts. Mais c'est quand même une audace à l'époque. Dans le genre du giallo. Et bon, c'est aussi une critique d'une certaine bourgeoisie italienne, hein, quelque part. Hein. C'est une charge assez virulente. Et pour moi, qui l'a vu mourir, d'Aldo Lado, c'est vraiment le haut du panier du giallo, tel qu'on peut le voir dans les années 70.
Alors, à souligner qu'en plus, la copie a été nettement retravaillée. Elle est d'une beauté picturale assez extraordinaire. Les équipes de TCS Vidéo ont fait un très beau travail. Alors, oui, Lado, il est très à l'aise à Venise. Il est vénitien, Lado. Donc, à l'époque, il est assistant de Bertolucci. On lui demande de venir faire ce film. Il est en train de bosser sur Le Dernier Tango à Paris. Il abandonne Bertolucci pour faire ce film. Quoi. Il veut absolument faire ce film. Et moi, je trouve que si Venise a déjà été remarquablement filmée, mais rarement sa dimension fantastique a été... et son étrangeté auront été soulignées quand même avec autant de brio. D'ailleurs, Lado, il transforme la capitale de la Vénétie en un personnage, en fait. Il utilise la caméra subjective pour faire de la ville le seul témoin des meurtres. C'est très, très original, en fait. La ville est presque la complice du ou de la criminelle. Et il filme aussi le dédale labyrinthique des rues pour symboliser le chaos qui règne dans le cerveau du père quand il va rechercher sa fille. Quand la fille du père se fait... Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des meurtres d'enfants, puisque ça démarre en 68, on est dans une station enneigée à Megève, en France, et puis il y a une enfant qui va subir le même sort, là, hein, et l'affaire va finir par être classée parce qu'ils ne vont pas trouver. Donc on sait un peu ce qui guette la petite fille. Et ce qui est fort à ce moment-là, c'est que la musique de Morricone, qui est quelque chose de
comptine.
Comptine, inspirée de propres comptines vénitiennes que Lado connaissait. Il joue avec la diégèse, en fait. Et la musique, elle se met à être chantonnée, parce que c'est une musique qui intervient à chaque fois qu'il y a le tueur. Là, la musique, tout à coup, se met à être chantonnée par les enfants. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre, il devrait y avoir le tueur normalement, du coup. Et en même temps, il y a une scène où le père, il est en train de faire l'amour avec sa maîtresse. Et en parallèle, c'est là que moi je trouve que c'est très gonflé, c'est subversif même. En parallèle, on montre une fellation et l'assassin qui regarde cet enfant, qui en fait, lui, c'est pareil, il commence à être excité par la vue de cet enfant, qui va quand même... violé, tué, enfin voilà. En parallèle, on montre une scène de jouissance entre un couple qui fait l'amour et un assassin qui va kidnapper une enfant. Enfin, je trouve ça quand même assez gonflé, quand même, c'est assez incroyable. Alors c'est un des moments du film, il y en a plein, des moments extraordinaires dans le film. C'est un sommet de mise en scène, c'est un des meilleurs films de Lado. Hein. Voilà, c'est vraiment un de ses meilleurs films à Aldo Lado.
Et il s'attache aussi à filmer le peuple de Venise, hein, notamment quand le père va voir un couple à leur fenêtre pour demander où est-ce qu'il est leur fils, etc. Il y a vraiment, on pénètre vraiment dans le plus profond de Venise, quoi.
Ouais, puis il y a de la grande mise en scène au niveau du découpage, du montage. La scène qui amène la découverte du corps de la petite fille, elle est entièrement montrée, on comprend tout, il n'y a pas un dialogue, c'est complètement muet en fait. On trouve le corps, l'ex-femme revient, tout est muet. Voilà. Jusqu'à une scène de sexe avec son ex-femme comme pour conjurer le mauvais sort, où en fait, ils font l'amour, ils pleurent en même temps. Enfin, c'est une scène particulièrement marquante. Olivier Père, dans les bonus, lui, il n'est pas sûr que Nicolas Roeg ait vu le film. Moi, je trouve quand même qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux films, même si le film de Nicolas Roeg, Ne vous retournez pas, est un chef-d'œuvre. Hein. Mais on va retrouver quelques éléments, en particulier cette scène de sexe, ses balades dans Venise et tout. Alors, je ne sais pas si... Moi, je pense que oui, il a vu le film quand même. Je pense qu'il en reprend des éléments plastiques. Hein, voilà. Et les deux films sont extraordinaires. De toute façon, c'est pas le débat. On rappelle que c'est disponible chez Frenesi, que donc ça reprend les bonus qu'il y avait chez The Ecstasy au film, et qu'on y ajoute donc une intervention d'Olivier Père, hein, qui décortique et qui dit quelque chose avec lequel je suis vraiment d'accord, Olivier Père, c'est qu'effectivement, assez mystérieusement, Aldo Lado est quand même passé à côté d'une carrière d'auteur. Parce qu'en fait, c'est plus un auteur, hein, on le voit dans la suite. Il va travailler avec Vera Belmont, il va faire des films beaucoup plus personnels. D'ailleurs, L'enfance maltraitée va être au centre, hein, de sa filmographie. C'est presque par accident qu'il va faire ses deux premiers giallo, parce qu'avant, il fait Je suis vivant, qui n'est pas vraiment un giallo, d'ailleurs, qui est souvent classé dans les giallo, qui est une parabole sur l'oppression subie dans les pays du bloc, par les pays du bloc de l'Est. D'ailleurs, il va tourner sans autorisation dans des endroits où il n'a pas le droit de tourner du tout. C'est vraiment une grande perte pour le cinématographe. Il vient de nous quitter, Aldo Lado. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, de l'interviewer longuement. C'était vraiment une personnalité très attachante. Et je peux vous dire qu'il a été rock'n'roll jusqu'au bout, puisque quand je l'ai rencontré il y a maintenant 2 ans, il fumait, il picolait. Et il disait que bon, à son grand âge, il n'allait quand même pas arrêter. Donc voilà, un grand jouisseur et un très grand metteur en scène, malheureusement un peu trop oublié. Alors, on va partir de chez Frenesi, on va terminer l'émission toujours en Italie, mon cher Thomas, avec un film mal aimé, mal compris, je pense aussi, un film tardif de Lucio Fulci. Un film de 1984 qui sort dans une très belle édition chez Artus Film, Murder Rock.
Oui, un film, quand j'ai découvert, je ne comprenais pas pourquoi il était mal aimé, parce que je trouve qu'il tient très bien la route. Je trouve que c'est un bon giallo. Je trouve que c'est un giallo qu'on peut mettre en parallèle avec, par exemple, Six femmes pour l'assassin. Ça se déroule dans un milieu très précis. Six femmes pour l'assassin, c'est le milieu de la mode. Ici, là, c'est le milieu de la danse. Ce sont des danseuses qui sont assassinées les unes après les autres. Des danseuses qui font partie d'une troupe de danse des années 80, hein, très, très moderne à l'époque. Et les plus belles, les plus talentueuses sont assassinées les unes après les autres. Alors, bien sûr, il y a de l'érotisme, il y a de l'horreur. C'est du giallo, pur sucre. Moi, je trouve que... Dans ce film, on retrouve certaines des séquences qui peuvent être comparables à du Argento. Je pense notamment à une séquence dans un appartement qui me rappelle quand même pas mal la séquence de l'appartement de Opéra. Et je trouve qu'il utilise très bien les décors. Il en fait vraiment quelque chose. Je pense à la scène de douche, par exemple, au début, le premier meurtre, le premier assassinat, où il arrive à faire quelque chose de vraiment fantastique. Il arrive vraiment à utiliser les décors d'une façon... très pertinente et je trouve que le film très ancré dans les années 80 ne vieillit pas tant que ça par rapport à ce qu'il fait à ce qu'il arrive à faire avec les décors. Après, le film a des défauts. Le film, il est cousu de fil blanc. L'intrigue est cousue de fil blanc. On devine assez vite qui est l'assassin.
C'est le cas de le dire.
Oui. On devine très vite qui est l'assassin. La résolution, elle est biscornue, comme dans beaucoup de giallo. Mais je trouve que c'est un... Moi, je trouve que c'est un bon Fulci qui tient très bien la route, très bien filmé, très bien mis en scène. Avec oui, moi, je trouve que la façon dont il utilise la musique, les décors, ce milieu de la danse, il arrive à faire quelque chose de vraiment presque gothique avec la lumière et ces décors qui pourraient être complètement datés, ringards, parce que c'est les années 80, c'est une musique des années 80, mais je trouve que ça passe encore très bien.
Oui, moi, je trouve que cette histoire d'académie de danse... On voit que le film est fauché, mais... et puis, j'ai cru comprendre que Fulci n'était pas très fan du scénario, mais on voit qu'il en tire le maximum, qu'il a du talent, qu'il a beaucoup de talent. Alors, les meurtres sont assez sadiques, tout ça. Enfin, bon, En fait, le giallo, c'est quoi ? Ce giallo, c'est quoi ? C'est un mixte, en fait, entre Flashdance et le giallo, quelque part, hein, puisque c'est clairement l'option prise par les producteurs. D'ailleurs, il y a un des titres d'exploitation du film, c'est Slashdance. Donc, on ne peut pas faire plus explicite. Hein. Et je suis d'accord avec toi, Thomas, c'est un film qui est bien meilleur que ça... que sa piteuse réputation, quoi. Moi, j'ai toujours eu un petit fait pour ce giallo, sous-estimé. Oui, c'est fauché, mais Fulci s'en tire bien mieux par que par exemple dans Enigma, qui est un film qui était un film des années 80 aussi de Fulci. Et pour moi, il utilise à merveille les miroirs, la profondeur de champ, les différentes valeurs de plan. Bon, il y a un grand sadisme aussi du tueur qui tue ses victimes avec une épingle à chapeau dans le cœur, ce qui inspire quand même à Fulci quelques belles séquences de meurtre. C'est bien sadique quand même. Et puis, même la photo de Giuseppe Pinori qui a été vraiment critiquée hein, au moment de la sortie du film, qui est celui qui avait fait la photo de 2072, les mercenaires du futur, qui est une photo de 13 années 80, bah aujourd'hui, je trouve qu'elle a un certain charme, en fait, qu'en fait, elle apporte un certain plus esthétique. Alors, la musique de Keith Emerson, qui avait fait une super musique pour Inferno d'Argento, c'est un tout petit peu ce qui pêche dans le film. Je trouve qu'il y a une sorte de gloobie-boulga disco. Pourtant, Keith Emerson, c'est un musicien génial, mais là, il se loupe un peu. Mais pour le reste, pour moi, on est dans un hybride assez fascinant. Entre la bouillie visuelle du Flashdance d'Adrian Lyne et le giallo sadique aux accents, comme tu l'as dit, à la Mario Bava. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, pour moi, c'est vraiment un film à redécouvrir, ce Murder Rock. Alors qu'il a est un coup titré Murder et Rock plus loin. Moi, le titre que je connaissais jusqu'ici, c'était Murder Rock d'un seul coup, c'est-à-dire M-U-R-D-E-R-O-C-K. Voilà. Et donc, c'est sorti chez Artus Film, donc c'est Murder Rock, c'est signé Lucio Fulci. Et en plus, bon, on va pas bouder notre plaisir, on y retrouve la belle Olga Carlatos, que pour une fois, bon, comment dire, Lucio Fulci n'énuclait pas, il est gentil avec elle dans ce film-là. Je crois même que c'est son dernier film avant qu'elle reprenne ou prenne sa carrière d'avocate. Elle arrête complètement le cinéma. Donc je crois que c'est son dernier film. Donc, même rien que pour ça, ça mérite d'être vu. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.